Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Silab,
la radio sauvage.
Vous écoutez bien Silab, il est 6h avant minuit. Un nom circule beaucoup sur Internet en ce moment, celui de Luigi Mangione. Luigi Mangione, c'est un Américain de 26 ans. Le 4 décembre dernier, il a pris une arme, est sorti de chez lui et a assassiné Brian Thompson, PDG de la plus grosse compagnie d'assurance santé aux États-Unis, United Healthcare. Après une courte cavale, il a été arrêté et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que vous imaginez bien que si je vous en parle, c'est que ce n'est pas le cas. Depuis son acte de violence, Mangione est devenu un véritable héros pour beaucoup d'États-Unis. Sur Internet, il est quasiment devenu le nouveau Robin des Bois et on ne parle pas seulement de mèmes. Luigi Mangione est devenu un phénomène de pop culture. Dans la vie réelle aussi, il y a même des produits dérivés à son effigie qui se vendent comme des petits pains. La faute à l'information spectacle, au renversement des valeurs dans nos sociétés occidentales, ou peut-être plutôt à une politique de santé qui serait, elle, devenue ultra-violente, peut-être. Chez Luigi Mangione, les enquêteurs et enquêtrices ont découvert un manifeste critiquant le système de santé américain, selon lui le plus coûteux du monde. Le jeune homme dénonce des compagnies qui continuent d'abuser de son pays pour en tirer un immense profit et écrit, je cite, « Franchement, ces parasites l'ont bien mérité ». Outre-Atlantique, alors que le système de santé est presque entièrement privatisé, beaucoup d'Américains et Américaines ne peuvent plus se payer d'assurance maladie ou en payent une très très chère pour d'énormes restes à charge. Dans le même temps, United Healthcare, qui assure plus de 50 millions d'Américains et Américaines, déclare un chiffre d'affaires de 370 milliards de dollars, j'en bafouille, et 16 milliards de bénéfices en 2023. Ainsi, le crime de Luigi Mangione est vu par beaucoup d'Américains et Américaines qui viennent pourtant de réélire Trump, qui promeut ses assurances, comme un crime politique acceptable contre le capital. Pour elles et eux, Luigi Mangione devient le vengeur d'un peuple victime d'une forme d'oppression économique. Tout est sentimental et le débat de fond est éclipsé. Peu de mentions dans les médias de l'assurance maladie, ni de l'accès aux armes à feu d'ailleurs. Au fait, on en est où nous déjà dans le projet de budget en ce qui concerne la sécu? Je sais plus. On va parler du flash de Syriane plutôt. Hein,
les journalistes ne meurent pas, ils sont tués. Ils ne sont pas en prison, des régimes les y ont jetés. Ils n'ont pas disparu, on les a enlevés. C'est ce qu'a déclaré Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, et ce, à la suite de la publication du bilan annuel de l'ONG. Résultat, 550 journalistes détenus, 55 pris en otage, 95 disparus et 54 tués. Des morts, dont 31 ont eu lieu en zone de conflit, un niveau record depuis 5 ans. En cause notamment la situation en Palestine, Gaza étant la région la plus dangereuse au monde pour les journalistes, où plus d'un tiers y sont assassinés par Israël. RCF rappelle que depuis octobre 2023, les forces armées israéliennes ont tué au total plus de 145 journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, d'après leurs informations. Une situation inquiétante aussi l'ONU, qui hier de son côté votait par 158 voix pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Un texte adopté car non contraignant, les États-Unis ayant voté une nouvelle fois contre. La résolution appelle également à un accès sûr et sans entrave à une aide humanitaire d'ampleur et dénonce toute tentative d'affamer les Palestiniens. L'ONU demandant 4 milliards de dollars pour 2025 afin d'apporter une aide humanitaire à l'ensemble de la population de Gaza, estimée à 2,1 millions de personnes et 900 000 personnes en Cisjordanie. Une semaine après la démission du gouvernement, Emmanuel Macron n'a toujours pas élu le successeur de Michel Barnier. L'objectif de ce choix crucial, échapper à une nouvelle censure de l'opposition. Maxence et Nathan, vous nous expliquez tout ça.
En effet, l'Assemblée nationale dissoute à la suite des élections au Parlement européen en juin dernier a laissé son passage un chaos politique. Celles-ci ont mené à la censure du gouvernement Barnier après seulement 3 mois au pouvoir. Emmanuel Macron a pris cette décision radicale en réponse à une crise politique marquée par des blocages législatifs, qui ont abouti à terme à la censure du gouvernement Barnier. Mardi dernier, le chef de l'État a convoqué tous les ténors des partis de l'Assemblée nationale, à l'exception des LFI et du RN. Lors de la réunion de ce mardi, Emmanuel Macron a semblé tendre la main à la gauche en se montrant ouvert sur l'engagement du futur Premier ministre à ne pas utiliser le 49-3. Qui pour le titre de Premier ministre ? François Bayrou apparaît comme le favori du choix d'Emmanuel Macron. Les Républicains ont indiqué ce jeudi ne pas y être défavorables, mais le Parti Socialiste estime que ce n'est pas le bon choix et annonce exclure tout socialiste rentrant dans un gouvernement qui n'est pas de gauche. Dans le camp macroniste, les noms des ministres démissionnaires Catherine Vautrin et Sébastien Lecornu circulent aussi. Y aura-t-il finalement un Premier ministre de gauche ? L'ex-ministre venu du PS Jean-Yves Le Drian a décliné, mais certains espéraient encore le convaincre selon les sources macronistes. À droite, c'est le maire de Troyes, François Barouin, qui est cité. D'autres sources macronistes déclarent que le président nous prépare une surprise ce soir.
Dans ce climat d'incertitude politique, Emmanuel Macron doit également composer avec une opinion publique de plus en plus méfiante. Les sondages récents montrent une baisse significative de la confiance des Français envers la capacité du gouvernement à surmonter cette crise. La perspective d'un remaniement ministériel, bien qu'attendu, suscite des débats intenses. Ce qui fait le plus parler, c'est par exemple d'inclure des personnalités issues de différentes sensibilités politiques pour apaiser les tensions. Par ailleurs, les partenaires européens suivent avec attention l'évolution de la situation en France. Avec les défis liés à la présidence tournante de l'Union européenne et à la gestion des crises internationales, la stabilité politique de Paris est cruciale, pour l'équilibre de l'Union européenne. Le choix du futur Premier ministre pourrait non seulement influencer la dynamique nationale, mais aussi envoyer un signal fort sur la position de la France dans la scène européenne. Au vu de l'urgence, le président de la République a donc écourté son séjour politique en Pologne afin de pouvoir donner le nom du successeur de Michel Barnier à la tête de Matignon ce soir. En prenant cette décision rapide, Emmanuel Macron cherche à apaiser les tensions politiques internes et à rétablir une certaine stabilité au sein du gouvernement. Le choix du futur Premier ministre sera crucial pour rallier une majorité parlementaire et éviter de nouvelles crises politiques. Dans les coulisses, les discussions s'intensifient et le suspense demeure quant à savoir si Macron optera pour une figure consensuelle ou un choix plus audacieux. Et par ailleurs, la communauté internationale observe avec attention les développements en France. La stabilité politique du pays a des répercussions importantes sur l'ensemble de l'Union européenne, en particulier dans le contexte actuel de défis économiques et géopolitiques. La nomination du nouveau Premier ministre sera non seulement un signal fort pour l'opinion publique française, mais aussi pour les partenaires européens de la France. Peu importe les circonstances, nous devrions avoir les réponses à toutes nos questions, pas plus tard que dans la soirée.
Merci Maxence et Nathan pour toutes ces précisions. 3 ans de prison ferme et 45 000 euros d'amende, c'est la peine requise à l'encontre de Julien Roys par le procureur de Marseille dans le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. L'élu était à l'époque adjoint au maire de la ville en charge de la police des immeubles en péril au moment de l'effondrement des deux bâtiments insalubres. Un drame ayant coûté la vie à 8 personnes. Et valant à Julien Roys la qualification d'auteur indirect par le procureur de Marseille. D'autres peines, allant de 2 à 5 ans de prison, ont été notamment prononcées contre l'un des propriétaires à l'époque, aussi un élu régional, ainsi que contre l'avocat du syndic de l'immeuble, Xavier Cachard. Pour le procureur, cette affaire est, je cite, « une catastrophe venue apporter un terrible éclairage sur l'habitat indigne dans la cité phocéenne, d'un chaos silencieux à une réalité criante ». Chères nageuses et nageurs, pour Noël, vous aurez le droit à une piscine des Gaïoles rénovée.
Wouh !
Elle sera tout de même fermée du lundi 23 décembre 2024 au dimanche 19 janvier 2025. Ok, j'avoue, c'est un peu tard pour un cadeau, mais ça reste janvier, on a le droit de faire des cadeaux en janvier, je crois. Et en prime, sera aussi fermée du lundi 16 décembre au dimanche 5 janvier la piscine de Villejean. Ainsi que la piscine de Saint-Georges, elle, à partir du 23 décembre et jusqu'au 5 janvier également. Les deux enceintes sportives fermant pour faire leur vidange. Mais pas d'inquiétude, hein, la piscine de Bricquigny reste quant à elle ouverte durant toute cette période et élargit même ses horaires. En attendant, les artistes, pour vous, j'ai une bonne nouvelle. Laissez votre esprit fabuler un futur monde écologique et solidaire pour la 3e édition du concours créatif Résonance de la Fondation Good Planet. Le thème cette année, rêver. Pour vous exprimer, 5 formats sont acceptés. Écriture, illustration, photo, audio et vidéo. Pour vous inspirer, la Fondation met à votre disposition des ressources en ligne. Ateliers, articles, newsletters, tout pour éviter la page blanche. La compétition est ouverte aux francophones de 16 à 25 ans et les créations sont acceptées jusqu'au 31 janvier. Plus d'infos sur le compte @resonance avec un S tiré du bas Good Planet. Fin novembre, à l'occasion du Festival des Solidarités 2024 Festisol, placé sous le thème « Environnement et droits des peuples », Eva a pu s'entretenir avec deux femmes issues du peuple autochtone Nassa de Colombie. Adriana est une jeune professeure de 25 ans. Elle représente les jeunes au sein de sa communauté et pour les autorités locales non autochtones. Stella est son aînée, elle fait partie de la garde indigène. Ensemble, ces deux femmes de la Terre partagent aux auditeurs et auditrices de la radio CELAB la vision de la nature et de l'agriculture du peuple Nassa.
La médecine traditionnelle.
Dans nos communautés, on n'utilise pas les médicaments de pharmacie. Il y a le grand sage qui connaît toutes les plantes et qui les prescrit. Grâce à la médecine traditionnelle, nous avons survécu jusqu'à aujourd'hui. Notre rapport à la nature vient du fait que nous existons grâce à la terre-mère qui nous donne nos aliments et qui nous permet tout simplement d'exister. Nous sommes ici pour parler de notre communauté. Nous sommes venus en France pour expliquer que nous sommes un peuple qui cultive la terre, qui défend ses territoires et qui reboise. Le rôle de la garde indigène, c'est de veiller à ce que l'on conserve notre identité et aussi à être attentif à tous les membres de la communauté, à ce qu'ils deviennent et surveillent non seulement le territoire, mais veillent au bien-être de toute la communauté. L'éducation d'un enfant Nassa comprend la culture. Elle n'a pas expliqué, mais ça comprend la langue, ça comprend l'artisanat. Et l'éducation a un élément extrêmement important, c'est la spiritualité qui est présente dans tous les actes quotidiens. Également, ils apprennent aux élèves à cultiver le jardin potager et à reboiser. Le conseil que je donne à toutes les personnes, à tous les Français, c'est de réfléchir, parce que tout vient de notre fort intérieur, de réfléchir à leur posture face à la nature, à notre terre-mère, et de mener des actions pour vraiment prendre soin de l'environnement.
Cuidar a nuestra madre tierra.
Merci encore à Adriana et Stella, mais aussi à Esmeralda de l'association Selva Viva pour cet entretien et la traduction. Gracias por todo. J'ai fait allemand, alors excusez mon accent. Préparez votre pop-corn pour ce soir. Reine Dragopol fait son show ce soir au Café des Champs Libres pour le festival de cinéma queer Regard. Au programme show drag avec pléthore d'artistes dont Miss Volvic, Violet Taxidermy, Pearl Bookcock et plein d'autres. Le tout suivi d'un set de DJ Frenzy. L'entrée est à prix libre, donc rendez-vous à 20h là-bas.
Wow. Merci Cyriane pour ce flash. Avec Léane et Janelle, nous avons deux invités ce soir. Petite virgule ? Non, on n'a pas le droit de petite virgule. Si ? Non ? Bon, tant pis, hein. On peut faire ça. Hein. Si.
6h. Minuit, pourquoi ?
Il est midi. La radio sauvage.
Minuit.
01. À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Bonnet vert vissé sur la tête, Estelle Laurent est doctorante en géographie. Gros pull rouge, hein, bien chaud pour l'hiver et bagouze au doigt. Suzanne Le Maréchal est réalisatrice et fondatrice de l'association Thèse en Images. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, peut-être, Suzanne, vous pouvez nous présenter l'association Thèse en Images. Qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, alors Thèse en Images, c'est une association qui existe depuis 2020 que j'ai fondée suite à un constat. Que malheureusement, les recherches universitaires sont très peu connues en dehors du monde universitaire. Moi, j'ai fait de la recherche en géographie, j'ai lu pas mal de thèses, de mémoires, plein de choses de chercheurs. Je me suis rendu compte de la diversité et vraiment de tous les sujets qui existent et dont personne n'entend jamais parler. J'ai trouvé ça très dommage. Je me suis mise à faire des films, documentaires, notamment mon mémoire que j'ai rendu sous forme de documentaire à la place de le rendre sous forme écrite. Et je me suis rendu compte que c'était un média parfait pour ouvrir un plus grand public. Donc j'ai créé Thèse en images, et avec Thèse en images aujourd'hui, on fait plusieurs choses. On fait de la production et de la réalisation de documentaires, comme on va vous parler bientôt avec Estelle. On fait aussi du contenu sur les réseaux avec des vidéos plus petites, plus courtes, de 5 minutes, avec des doctorants qui racontent leur thèse, tout ça. On fait aussi des ateliers pour les jeunes, où on leur apprend à faire des vidéos, à faire des techniques d'interview. Et aussi, on fait des soirées, diffusion, projection, concert, dont on vient parler ce soir.
Ok, très bien. Du coup, vous, parmi vos projets que vous avez évoqués, vous avez produit un film intitulé Nathalie Ngor, qui sort demain, justement, le 13 décembre. Ce film illustre la thèse d'Estelle Laurent, doctorante à l'Université de Rennes 2. Tout d'abord, que signifie ce titre intrigant, Nathalie Ngor, et qu'est-ce qu'il représente à travers votre film ?
Je laisse Estelle répondre.
Donc, Nathalie Ngor, c'est du Wolof. Nathalie, ça veut dire raconte, en quelque sorte. Et c'est le titre, en fait, représente bien cette recherche où, en fait, je demande aux personnes, aux jeunes et aux habitants de Ngor de me raconter leur territoire. Et donc, ça fait partie de tout un programme qu'on a réalisé avec festivals, ateliers artistiques, etc., qui s'appelle Nathalie Ngor, raconte ton territoire.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quels sujets ou problématiques sont abordés durant ce film ?
Alors, donc c'est à partir de ma thèse qu'on a réalisé ce film, qu'on a coécrit avec Suzanne et Mamadou Sam Tafa, qui est le fondateur du collectif Cœur Même, qui nous a accompagnés aussi tout au long de cette recherche. Et donc, ce film raconte, comme je disais, en fait, le territoire de Ngor. C'est pas l'ensemble de ma thèse, parce que c'est compliqué de mettre l'ensemble de la thèse en 45 minutes de film, mais en tout cas, il pose le contexte de ce territoire, les enjeux autour de rapport qu'on a avec le territoire, autour de l'urbanisation notamment, puisqu'à la base, c'est un village, Ngor, créé par la communauté Lébou, qui a subi l'urbanisation de Dakar, et donc ça amène des changements économiques, sociaux, etc. Et donc on interroge ça dans le film, ça pose ce contexte-là. Et l'objectif justement, c'est d'ouvrir le débat derrière pour discuter avec les habitants de Ngor, mais aussi avec l'ensemble des personnes qui verront ce film.
Très bien. Et qu'est-ce que ça apporte de mettre une thèse en image ?
Ben, ça apporte beaucoup, hein, parce que comme le disait Suzanne juste avant, l'objectif premier était réellement de rendre accessible et visible la recherche universitaire. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était aussi un outil de recherche, un outil méthodologique, puisque les personnes participent à la construction de ce film. Moi aussi, du coup, j'ai des rushs de vidéos qui me permettent d'analyser aussi les images pour ma thèse. Et enfin, en fait, quand on fait la projection du film, on l'a projeté quand même deux fois à Ngor, et bien ça permet justement d'avoir des échanges, des retours critiques, des points de vue, et tout ça, c'est encore quelque chose qui alimente la recherche, qui alimente la thèse, qui n'est pas finie aujourd'hui, donc je m'en sers encore pour pouvoir rédiger et analyser mes recherches.
Très bien, vous parlez de la complexité de mettre en image du coup les thèses, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment se passent les tournages, quelles difficultés vous avez rencontrées durant ce tournage-là en particulier ?
Moi, je peux vous raconter un peu comment on fait pour créer un projet de film sur une thèse. Parce que déjà, il y a tout un travail en amont, donc déjà la rencontre avec Estelle, de se réfléchir à qu'est-ce qu'on veut raconter dans ce film, qu'est-ce qu'on va mettre de côté, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Donc il y a tout un travail en amont. Il y a aussi trouver des financements, qui est un peu le nerf de la guerre avec Thèse en images, dont peut-être on en reparlera. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, qu'on a un peu ce qu'il faut pour partir, ben moi je la rejoins sur son terrain. Donc Estelle, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle y est, elle connaît du monde, et moi je la rejoins pour 2 mois. Pendant ce festival Nathalie Ngor qui avait sur place, qu'elle a organisé, a co-organisé avec Cœur Même. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à la suivre, à être là, à être présent, à filmer les bonnes choses. Moi aussi, en tant que personne extérieure, à bien comprendre le sujet, les problématiques, l'enjeu, qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc c'est aussi un jeu de réussir à trouver sa place entre Estelle qui fait de la recherche, les gens qui sont dedans, et puis moi dedans, quelle est ma place, quel est mon regard. C'est toujours intéressant parce que j'ai un regard extérieur qui permet à Estelle de prendre un peu de recul sur son sujet, et de moi être là en train de dire, bon, ça on comprend pas forcément, est-ce que ça c'est important de le mettre. Donc comme ça on arrive à trouver une balance assez cool, et puis on a passé des super moments pendant ces 2 mois, parce que voilà, les gens se sont beaucoup appropriés le film, sont venus faire les interviews, mais nous ont aussi proposé plein de choses. Donc voilà, c'est beaucoup, moi je suis toute seule sur place, j'ai mon matériel, donc c'est compliqué. compliqué aussi à gérer parce qu'il y a le son, l'image, enfin voilà, vous vous imaginez bien. Donc c'est quand même une grosse histoire. Mais ce qui est rigolo à faire dans ces films-là, après, c'est aussi tout le travail de, bon, bah, une fois qu'on a tout ça, comment on le raconte. Donc moi, c'est beaucoup, je vais tout dérocher, proposer à Estelle des choses, elle va m'en redire parce qu'on coécrit ensemble le film, même si la réalisation est de mon côté, mais c'est son film, c'est sa thèse, donc il faut absolument que ça colle avec ce qu'elle a envie de raconter aussi. Et donc pareil, donc, finalement, il y a deux mois de tournage, mais six mois de montage, etc. Donc là, c'est l'aboutissement, enfin, de ce long projet.
Et ça, je voulais juste rajouter un truc, c'est effectivement il y a des allers-retours entre moi et Suzanne, puis aussi des allers-retours avec ta fac, qui est habitant d'Ungor, où justement la volonté était aussi de respecter le regard de ta fac et ce que les membres du collectif Cœur Mam aussi voulaient raconter à travers ce film. C'est pas, il nous appartient pas que à nous finalement, il appartient aussi aux membres du collectif Cœur Mam et puis aux gens d'Ungor en général, quoi.
Et justement, est-ce que c'était assez facile de convaincre facilement les personnes de passer à l'image durant ce film ?
En fait, ça n'a pas été si difficile parce que en amont, j'étais sur place avant. On a mené des ateliers de création artistique et la plupart des personnes qu'on voit, justement, en tout cas les jeunes qu'on voit, ont participé à ces ateliers-là. Donc ils avaient bien compris aussi l'objectif de la recherche. Ils n'étaient pas pris au dépourvu et on n'est pas arrivé sur le tas comme ça. Donc ça n'a pas été si compliqué de convaincre, en tout cas c'est les personnes qui apparaissent dans le film, à venir participer à ce projet-là.
Bah, si je peux juste ajouter, en règle générale, ces personnes-là non, puisqu'elles font partie du projet, elles connaissaient bien Estelle, donc la confiance, elle est... Et puis surtout Tafa, parce qu'en fait, Tafa, c'est quelqu'un qui connaît tout le monde à Ungor, donc il suffit d'être à côté de lui, et puis bon, bah, on est plutôt tranquille. Par contre, filmer au Sénégal, c'est très compliqué. En règle générale, les gens n'aiment pas te filmer si on ne te connaît pas, mais même si on te connaît, en fait, en général, dès que la caméra elle est sortie, ben voilà, ils sont très très méfiants. Donc encore plus dans ce village, qui est quand même un village où tout le monde se connaît, etc., et nous, on arrive en tant que blanche avec notre caméra, donc on est très mal vu. Donc c'est pas simple dans les rues, par exemple dans les rues d'Ungor, de se balader avec la caméra, c'était très compliqué. Donc il a fallu jouer avec ça aussi, et le côté super de filmer les ateliers de théâtre, enfin les gens qui font partie de la recherche, et en même temps vouloir montrer des scènes de vie du village, qui était pratiquement impossible puisque on n'avait pas trop le droit de filmer. Donc c'est un peu soit l'un soit l'autre, quoi.
Et si je peux me permettre de placer une question, vous nous disiez du coup la thèse n'est pas finie. Qu'est-ce que ça a apporté du coup en plus à vos recherches de faire ce film, d'aller tourner là-bas, d'avoir ce lien en plus avec les habitants et habitantes, est-ce que ça a apporté des nouveaux éléments à la thèse?
Oui, ça a apporté, alors sur, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur plusieurs points, parce que donc déjà il y a l'image, on a je ne sais pas combien d'heures de rush, où en fait moi je reperçois certaines choses en regardant ce qu'il y a à l'image, l'espace public, comment il est pratiqué, etc. Bah, je peux me rendre compte de certaines choses davantage qu'avec un entretien enregistré seul. Et puis aussi les discussions qu'il y a eu après, où même si globalement ça a été plutôt apprécié, il y a eu des retours, des critiques sur la manière dont on a montré les choses ou de la manière dont on n'a pas montré aussi certaines choses qui étaient attendues. Et donc pour moi c'est aussi...
Par exemple
par exemple...
Sans spoiler le film.
Ouais, la voix des anciens. Elle n'apparaît pas énormément dans le film. Ça a été en fait un choix à un moment donné parce que les jeunes sont ceux qui ont le plus participé aux ateliers. Et en fait, du coup, ça a aussi un peu tourné ma thèse où elle l'interroge la relation au territoire de l'ensemble des habitants. Mais finalement, vu qu'il y avait plus de jeunes participants, j'ai un peu tourné ma thèse en question. Oui, mais en fait, ce regard des jeunes aujourd'hui, c'est quoi ? Et donc, ça a été un peu une critique qu'on m'a faite, mais que j'entends totalement et qui est totalement légitime. Et d'ailleurs, j'en remercie de cette critique-là, parce que moi, du coup, ça m'a fait me dire, bon, c'est vrai, la voix des anciens, je l'ai en entretien, elle apparaît pas. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, en fait, le fait de ne pas se sentir montré, le fait que la parole des anciens est très importante, hein, à Ungor et dans beaucoup d'autres endroits, mais... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout ça? Et donc là, ça veut dire, oui, en fait, la transmission des savoirs passe par les anciens, la transmission des savoirs endogènes, des pratiques spirituelles, des pratiques, et tout ça passe par les anciens, et pourtant, ils n'apparaissent pas dans le film. Donc voilà, ça, moi, après, ça m'a questionné plus tard sur ma thèse là-dessus.
Tu veux y aller ?
Oui, oui, j'y vais.
T'en prie.
Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport au film spécialement, ou on peut passer à la partie événement qui va se dérouler demain
Bah non, il faut venir voir le film pour en savoir plus.
Bien dit. Du coup, pour célébrer la sortie de Nathalie Engor, vous organisez une soirée complète demain au bâtiment à modeler un lieu atypique à Rennes. Mais votre événement ne s'arrête pas là. Ne s'arrête pas à la projection. Il y aura un bar, de la restauration assurée par le Sablier, mais aussi un concert du groupe Sunugal Band et un DJ set par le collectif René Untitled. Pourquoi avoir choisi d'associer cinéma et musique pour cette soirée?
Du coup, avec Thèse en Images, c'est le troisième événement qu'on organise au BAM, où justement on essaie de faire ces soirées-là où on fait et projection de films recherche et un autre art, souvent concert, mais ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi. C'est dans l'idée de mélanger des publics. Certaines personnes qui seraient allées au concert, mais pas forcément la projection, viendraient et ainsi et inversement. Ce qui fait que c'est toujours dans cette optique d'ouvrir au maximum au plus grand public, etc. Sachant que là, en plus, ce film, bon, c'est le nôtre. Donc d'habitude, avec Thèse en Images, bon, c'est pas forcément un de nos films qu'on projette. Donc là, ça avait aussi cette envie de ramener tout le monde, les copains. Et puis c'est autour du Sénégal, donc on s'est associé avec la Jam Diffusion, qui est un collectif de musiciens et sénégalais et rennais. Donc c'est eux, Sunugal Band, Untitled, dont Estelle fait partie. Enfin voilà, c'était un peu cette envie de rendre festif l'événement. Et voilà, et donc c'est un truc qu'on fait, et notamment aussi le Sablier qui vient nous régaler. Donc ça va vraiment être une grosse soirée bien complète.
Trop chouette. Et pouvez-vous nous rappeler comment on s'y prend pour réserver, comment on vient pour participer
Ouais, carrément. Alors du coup, il y a toutes les infos sur les réseaux si vous voulez. Donc sur Thèse en Images, on a Insta, Facebook, tout ça. Sinon, pour réserver la billetterie, elle est sur Hello Asso. Vous trouverez ça sur l'événement Facebook ou sur Hello Asso avec Thèse en Images. Et puis bah, c'est bien de réserver parce que ça nous donne une idée d'il y aura combien de personnes, au moins pour savoir combien de plats on aura besoin. mais voilà, sinon vous avez toutes les infos sur les réseaux en vrai et sur notre site internet.
Très bien. Est-ce que vous pouvez rappeler l'heure de l'événement et...
Oui, alors l'événement il a lieu au bâtiment à modeler à partir de 19h, de 19h à 1h du matin. C'est demain, vendredi 13 décembre.
Très bien, super.
Ouais, bah peut-être une petite dernière. Est-ce que par rapport à Thèse en Images, il y a d'autres films en cours, d'autres thèses qui sont des projets dont
ouais,
vous pouvez nous parler?
Carrément. Bah justement, on est sur un nouveau projet et en ce moment on est en recherche de financement. C'est dont je parlais tout à l'heure, c'est toujours un peu le nerf de la guerre de toutes les associations.
Yes.
D'ailleurs, on le voit avec le nouveau gouvernement, ça risque pas de s'améliorer. Mais du coup, notre prochain projet est avec Félix Flo, un doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Ça se passe en Guyane française. C'est sur les droits de la migration. Et notamment le fait que les migrants en Guyane française n'ont pas les mêmes droits que les migrants en France. Donc ça remet en question, enfin en tout cas ça pose la question de ce droit d'exception. On s'associe avec Chloé Nain qui est illustratrice rennaise, qui viendra dessiner ces migrants qu'on ne peut pas filmer puisque beaucoup sont dans une situation illégale. Voilà.
Ok, on, ça on a l'air trop intéressant.
Ouais. Si je peux juste rajouter, on a un crowdfunding justement pour cet événement, ce nouveau projet. Donc n'hésitez pas, c'est aussi sur les réseaux, vous pourrez trouver tout ça.
Donc sur l'Instagram de Thèse en Images par exemple.
Sur l'Instagram, sur le site internet thèseenimages.org, voilà.
Super, le message est passé. Merci à vous deux d'être
venus. Merci. Merci.
Dans ces
Merci
heures
beaucoup.
Minuit. On passe à la chronique.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Aujourd'hui, Léo vient tenter de vulgariser ce qu'est le wokisme dans une toute nouvelle chronique. Donc le wokisme vu depuis la porte des toilettes, Léo.
En effet, si vous êtes déjà allé dans les toilettes d'un lieu public, vous connaissez probablement ces deux petits pictogrammes qui sont apposés sur la porte et qui servent à différencier les toilettes. Et si vous les connaissez, vous savez depuis très longtemps ce que veulent dire ces pictogrammes. Le bonhomme simple signifie garçon ou homme, et le bonhomme avec une jupe signifie fille ou femme. Et sachant ça, vous vous êtes probablement toujours appliqué à prendre la bonne porte selon si vous êtes un homme ou une femme, probablement jamais sans vous poser de questions. Pourtant, il y a plein de gens pour qui la définition des mots fille, femme, homme, garçon n'est pas très claire. Et le problème, il est le même pour plein de mots en général. Utilisés seuls sans explication, ils sont imprécis. Moi par exemple, quand je vivais chez mes parents, c'est ma mère qui faisait les courses, donc je n'achetais pas de viande. Ensuite, quand je suis parti faire mes études, je n'ai presque jamais acheté de viande non plus parce que c'était trop cher pour moi. Depuis, j'ai gardé cette habitude de ne jamais en consommer chez moi. Est-ce que pour autant je suis végétarien ? Non, parce que j'en mange quand même occasionnellement. Alors vous allez me dire, tu es flexitarien. Non plus, parce que ce mot-là, il voudrait dire que je me serais imposé un régime végétarien drastique que je transgresserais de temps en temps par flexibilité. C'est pas du tout mon cas non plus. Moi, j'ai juste pris l'habitude de ne pas manger de viande chez moi. Ça ne me manque pas, mais à l'occasion, au resto ou chez des amis, si j'ai envie, j'en mange quand même. Là, je viens de vous démontrer que pour parler ne serait-ce que de mon régime alimentaire, je ne peux pas résumer mon propos à un seul mot. Il m'a fallu faire plusieurs phrases complexes pour exprimer avec justesse mon idée. L'année dernière, j'ai étudié dans un centre de formation où des élèves avaient fait un communiqué pour demander à l'administration de changer les pictogrammes sur la porte des toilettes dans le but de rendre la signalétique plus inclusive. Cette demande avait fait jaser, j'avais entendu mon collègue Ismaël dire « Non mais les toilettes inclusives ça va trop loin, on va quand même pas faire les toilettes spéciales pour les grands chauves de plus d'un mètre 80 ou pour les petits gros. » Non Ismaël, je te rassure, on ne va pas faire les toilettes spéciales pour chaque catégorie d'humains, ce serait impossible et surtout c'est pas l'idée. Alors c'est quoi le rapport entre ma consommation de viande et les pictogrammes sur la porte des toilettes ? Eh bien le rapport c'est que les mots « homme » et « femme » ou « fille » « garçon », ils ont le même problème que les mots « végétarien » et « flexitarien », ils sont limités. Ils ne suffisent pas à décrire tous les usagers qui pourraient utiliser ces toilettes. Cette limite, elle vient notamment du fait qu'on utilise les mots homme, femme, fille, garçon indifféremment pour parler de deux notions pourtant bien différentes, le genre et le sexe. Est-ce que vous êtes une femme parce que ça correspond à votre identité, c'est comme ça que vous vous définissez auprès des autres, ou est-ce que vous êtes une femme tout simplement parce que vous possédez un vagin ? Eh bien, plutôt que d'avoir à répondre à ces questions à chaque fois qu'on va aux toilettes, ce qui serait franchement chiant, eh ben, on a remplacé les pictogrammes sur la porte des toilettes par des pictogrammes qui représentent tantôt un siège, tantôt un urinoir. Ainsi, chacun sait quelle porte il doit pousser pour trouver l'équipement dont il a besoin, sans avoir à se poser de questions, ni à se justifier. Faire les toilettes une chose égale pour tous plutôt que d'individualiser, à mon avis, c'est plutôt ça le wokisme.
Merci Léo pour ce décryptage, à bientôt dans 6h avant minuit. Un petit dernier message avant de se quitter.
Téléphone.
Allô.
Syllab, la radio sauvage.
J'ai deux messages en fait. Le premier, c'est que vous pouvez nous laisser un message vocal. On a déjà eu des déclarations d'amour, on a eu des conseils de lecture, on a eu toutes sortes de choses super sympas, des félicitations sur notre travail. Vous pouvez nous dire tout ce qui vous passe par la tête, un truc près de chez vous, enfin bref. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera diffusé à la place de cette annonce-là que je suis en train de faire à la fin de l'émission. Et puis sinon, je voulais vous dire que 6 heures avant minuit organise une collecte en partenariat avec La Cloche à l'occasion de son émission spéciale de Noël. Ce sera le 19 décembre. Pour participer, vous pouvez apporter les produits suivants indispensables au maraudeur de l'assaut, café, thé, tisane, sucre en morceaux ou en dosettes, soupe en sachet individuel de soupe déshydratée ou en briques à réchauffer et gobelet en carton. Il vous reste jusqu'au 19 décembre, donc à 19h, hein, facile. Pour faire parvenir vos dons dans les locaux de Syllab, on est au deuxième étage du bâtiment EREV, ou maison des étudiants, sur le campus Villon de l'université Rennes 2. Merci par avance pour votre générosité. Merci Marilyn pour la technique et à lundi dans 6h20 minuit.
Quelle heure est-il ?
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.